Puis de vous retrouver Anne Verdaguer pour le journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Anne.
Bonjour Valentine, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, encore et toujours, les propos xénophobes de Donald Trump contre des élus démocrates. L'une d'entre elles, originaire de Somalie, a été particulièrement prise pour cible hier lors d'un meeting. On en parle dans un instant avec Arim Lipold dans sa revue de presse. Le président américain qui échappe à une procédure de destitution, on en parlera aussi. Les manifestations à Porto Rico contre le gouvernement qui fait l'objet d'accusations de corruption et de sexisme et d'homophobie. Et puis on ira également à Cuba où le gouvernement a annoncé une hausse des salaires.
Omar has a history of launching vicious anti-Semitic screeds.
Voilà, Donald Trump, hier, lors d'un meeting qui s'en prend à l'élu démocrate Omar, et cela fait la une de la presse. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Anne, bonjour à tous. Les attaques persistantes, effectivement, de Donald Trump contre les élus démocrates issus des minorités et la foule qui chante « renvoyez-la, renvoyez-la » comme on vient de l'entendre. Bien voilà ce qui donne une idée de la stratégie électorale que le président adoptera dans les mois à venir. Cette analyse est alliée sur le site d'information The Hill. Décidément, poursuit The Hill, Donald Trump n'a aucune envie de rassembler les Américains mais joue sciemment sur les conflits raciaux. Il veut passer un message national à ses électeurs, d'où ses attaques contre 4 députés progressistes, estime pour sa part le Washington Post. Le journal note que le président, durant son discours de 90 minutes, a volontairement arrêté de parler pour qu'on entende bien le chant de ses partisans. La députée insultée, Ilhan Omar, a répondu au président sur Twitter en citant l'extrait d'un poème de l'écrivaine afro-américaine Maya Angelou. « Vous pouvez m'abattre de vos paroles, me découper avec vos yeux, me tuer de toute votre haine, mais comme l'air, je me lève pourtant. »
On reste aux États-Unis à Rim où la Chambre des représentants s'est prononcée hier contre une procédure de destitution contre Donald Trump. L'élu démocrate Al Green, qui avait déjà soumis cette proposition auparavant, cherchait à profiter du vent de critique que le président américain a provoqué ces derniers jours à propos de ses tweets jugés racistes. On en parlait à l'instant. Écoutez la réaction de Donald Trump suite au rejet de cette demande de procédure de destitution.
C'est le projet le plus ridicule qui soit. Nous avons l'économie la plus puissante du monde. Nous avons reconstruit notre armée. Nous avons assoupli les règles. Les réductions d'impôts n'ont jamais été aussi importantes. Et nous avons débarrassé le système de tout un tas de choses dont les gens ne voulaient plus. Là, nous venons d'obtenir une écrasante majorité contre cette procédure de destitution. Restons-en là, et maintenant laissons les démocrates revenir au travail.
Voilà, Donald Trump hier, suite au rejet de cette procédure de destitution à la Chambre des représentants. Direction Porto Rico, à Rim, où des milliers de manifestants ont réclamé hier la démission du gouvernement Ricardo Rossello.
Au chant de Ricky renuncia, Ricky démissionne, une foule s'est rassemblée dans le centre historique de San Juan, la capitale de ce territoire associé aux États-Unis. C'est à la une du Miami Herald. Le journal a rencontré des manifestants très très remontés contre le gouverneur accusé de corruption alors que le pays traverse une grave crise financière. Je dois être ici, je ne peux pas faire autrement, explique par exemple l'une des participants à la manifestation au journal, Ricardo Rossello, ne me représente plus, ajoute cette dame sur une photo publiée également par le Miami Herald. On voit deux enfants qui tiennent des pancartes avec des slogans « Pour mon éducation et pour ma santé, démissionne ».
Et le gouverneur de Porto Rico, lui, reste droit dans ses bottes, Arim.
Oui, une démission n'est pas à l'ordre du jour, a commenté le gouverneur adjoint Eric Rolón, cité par le site d'information El Vocero, selon lequel le pays se trouve dans une crise politique et économique. Et le numéro 2 du gouvernement de Porto Rico d'ajouter « Les manifestations ne sont pas un moyen pour faire changer le gouvernement, cela n'est pas un processus prévu par la Constitution. »
Il faut dire, Arim, qu'une vive polémique agite l'île des Caraïbes au-delà des scandales de corruption.
Oui, exactement. Le Centre de journalisme d'investigation a révélé la semaine dernière le contenu de conversations sur la messagerie Telegram entre le gouverneur Ricardo Rossello et une douzaine d'autres hauts responsables locaux, selon des extraits publiés, entre autres, par le journal local El Nuevo Día. Eh bien, ces hommes y ont échangé des blagues misogynes et commentaires homophobes sur le célèbre chanteur Ricky Martin. Un responsable politique a écrit qu'il était, je cite, tellement macho qu'il couche avec des hommes parce que les femmes ne sont pas à la hauteur. Ricky Martin, qui a d'ailleurs participé hier à San José à la grande manifestation pour réclamer lui aussi donc la démission du gouverneur.
Alors on quitte Porto Rico avec cet autre sujet dans la presse, Arim, la condamnation à perpétuité du baron de la drogue, Joaquin Guzman alias El Chapo.
Oui, c'est à la une du New York Post, selon le journal El Chapo, dont la peine est assortie de 30 ans de prison supplémentaire pour utilisation d'armes à feu, a été rapidement transféré dans un centre pénitentiaire de haute sécurité surnommé l'Alcatraz des Rocheuses. Cette prison supermax se trouve dans le Colorado. L'ex-patron du cartel de Sinaloa aura comme voisin, entre autres voisin de cellule, le français Zacharias Moussaoui, condamné à perpétuité pour l'attentat du 11 septembre 2001. Et Terry Nichols, vous savez, c'est l'un des auteurs de l'attentat d'Oklahoma City en 1995. El Chapo passera le reste de sa vie 23 heures par jour dans une cellule de 8 mètres carrés, explique le New York Post. Il n'aura pas le droit de voir ni ses deux filles jumelles, ni sa femme.
Des conditions d'incarcération qui font que la mort sera peut-être un jour considérée comme un soulagement, Arim.
C'est ce qu'écrit exactement le journal mexicain El Universal, le journal qui doute que le châtiment exemplaire infligé à l'ancien narcotrafiquant aura un effet dissuasif. Il y aura toujours quelqu'un qui se croit plus malin qu'El Chapo, plus chanceux et plus brutal. Le fait est aussi, poursuit El Universal, que pendant les 2 ans et demi qui ont suivi l'arrestation de l'ancien baron de la drogue, peu de choses ont changé au Mexique. Le trafic de drogue se poursuit et les violences liées à cette activité également pacifiées. Le pays, conclut le journal, demande définitivement plus d'efforts que seulement l'arrestation des dirigeants des cartels.
Arim, pour la suite de votre revue de presse, nous allons en Haïti. Comme tous les jeudis, Franz Duval du Nouvelliste nous parle des sujets qui font les gros titres de son journal.
Bonjour Franz Duval.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du Nouvelliste et avec vous, nous allons parcourir la une de votre journal. Et on commence par un rapport de l'ONU.
Effectivement, 3 articles du Nouvelliste de ce jeudi reprennent des extraits du dernier rapport du secrétaire général de l'ONU adressé au Conseil de sécurité. Le rapport met l'accent sur plusieurs situations en cours en Haïti. Les Nations Unies ont rendu public mercredi ce rapport qui fait des reproches aux autorités haïtiennes sur un ton que l'organisation n'avait pas adopté depuis des années pour parler d'Haïti, d'autant que ce rapport est fait à quelques semaines de la fin de la MINUSUS, la mission des Nations Unies présente actuellement en Haïti, et de l'arrivée d'une petite mission qui sera un bureau politique qui viendra prendre le relais.
Alors, quelles sont les principales thématiques du rapport qui ont retenu l'attention du Nouvelliste?
D'abord, la situation de blocage politique est dénoncée dans ce rapport. Le secrétaire général de l'ONU recommande qu'un gouvernement soit enfin choisi et ratifié par le Parlement haïtien. Pour le dossier Petro-Caribe, les mots utilisés sont cinglants. L'ONU note que peu a été fait pour traduire les auteurs des faits en justice et essayer de recouvrer les fonds présumés détournés dans le cadre du dossier de corruption en rapport avec la gestion des fonds Petro-Caribe. Pour le massacre de la Saline, qui est intervenu en octobre dernier, l'ONU reprend les accusations des organismes de défense des droits humains haïtiens. Les responsables du massacre de la Saline doivent répondre rapidement de leurs actes, recommande le secrétaire général de l'ONU.
Alors, si je vous comprends bien, Franz Duval, ce rapport ne fait pas l'affaire du gouvernement haïtien.
Non, tout au contraire. D'autant que le rapport, qui date du 9 juillet, a été accessible pour la presse après une tribune éditoriale publiée par le président Jovenel Moïse vendredi dernier dans un grand journal américain de Floride. Le rapport tombe dans la semaine où on apprend aussi que le gouvernement haïtien vient d'engager une 3e firme pour soigner son image à Washington auprès de l'administration de Donald Trump. Ce rapport de l'ONU démolit l'argumentaire du président et met les responsables haïtiens à l'index.
Autre sujet que vous développez dans votre journal, Franz Duval, c'est les relations entre Haïti et les États-Unis. Ne pas déplaire à Washington est une préoccupation majeure en Haïti. Le Nouvelliste en a parlé cette semaine en éditorial.
Les politiciens haïtiens ne s'en cachent pas. L'appui et l'opinion des autorités américaines comptent énormément dans le jeu politique en Haïti. Chacun recherche l'onction ou craint la vindicte des émissaires de Washington. Les hommes politiques haïtiens savent que quel que soit leur positionnement sur l'échiquier, le poids des États-Unis pèsera lourd sur leur destin. Il peut les couler ou les renforcer. Le président Jovenel Moïse, comme ses prédécesseurs, fait tout pour être dans la bonne liste des Américains. C'est à l'aune de la croyance de nos politiciens qu'il faut comprendre le recours à une petite armée de firmes de consultation, de communication, de lobby, de support juridique pour le régime de Jovenel Moïse. En certains de vaches enragées pour les Haïtiens, le gouvernement paie des sommes folles pour se faire bien voir par Washington. Et se faire bien voir par Washington est très important en Haïti en temps de crise politique.
Autre dossier qui fait la une d'une nouvelle liste, c'est le Parlement haïtien qui se fait construire un nouveau local.
Un immense local de 40 000 m² au coût annoncé de 89 millions de dollars, soit près de 70 millions d'euros, ce qui fait déjà le plus grand et le plus cher immeuble d'Haïti. Des voix au Parlement dénoncent le mauvais timing, le mauvais moment choisi pour lancer le chantier. Le pays peine à payer ses fonctionnaires, une grave crise économique frappe la population haïtienne et les parlementaires qui n'arrivent pas à se réunir, qui ne travaillent pas, qui n'arrivent pas à faire passer ni un budget ni le gouvernement choisi par le président Jovenel Moïse vont s'offrir le luxe de bâtiments somptueux.
Merci beaucoup France Duval et à la semaine prochaine.
Et merci à vous Arim Lipol pour cette revue de presse des Amériques. À Cuba, le gouvernement annonce une augmentation des salaires. Le revenu moyen des fonctionnaires du secteur public s'élève désormais à 1060 pesos, soit 44 dollars. Les travailleurs d'État représentent plus de 3 millions de personnes et ils sont 1,7 million à bénéficier de cette hausse de salaire qui s'accompagne d'une série de mesures pour réformer l'économie du pays à un moment où les sanctions américaines et les difficultés économiques engendrent des pénuries. Le gouvernement cubain surprend avec ses nouvelles mesures économiques. Le reportage à La Havane de Domitique.
Dans la file d'attente d'une échoppe de denrées alimentaires, la nouvelle de la hausse des salaires fait débat. Iliana Lopez, son caddie à moitié plein, se réjouit de la nouvelle.
Ce n'est pas beaucoup, mais c'est une amélioration. C'est un plus, parce qu'on sait très bien qu'ici à Cuba, dans la situation dans laquelle nous vivons, les salaires ne correspondent pas vraiment à nos besoins. Mais c'est une augmentation, pas de beaucoup, mais c'est un plus. Et cela améliorera notre quotidien ici à Cuba.
À quelques rues, en descendant du bus, Ivan Delgado s'arrête acheter un sandwich. Casquette, lunettes et chaîne en or, le style est travaillé, mais Ivan assure ne pas gagner plus que le salaire moyen.
Ça ne suffit pas pour vivre. Par exemple, si tu achètes des vêtements, tu ne peux pas t'acheter à manger. Beaucoup vivent comme ça. Tu achètes des vêtements, donc il faut limiter les autres dépenses et tu ne manges plus.
Son salaire est passé de 767 pesos cubains, 30 dollars, à 1067 pesos, soit 44 dollars. Alexander, le vendeur de sandwich qui travaille à son compte et non pas pour l'État, y voit donc une opportunité.
La population aura un meilleur pouvoir d'achat grâce à cette hausse de salaire qui est considérable. Et c'est sûr que mes ventes vont augmenter parce que les denrées seront plus accessibles pour toute la population.
1,7 million de Cubains sont concernés par cette hausse de revenus et une réforme salariale générale sera annoncée dans les prochains mois. Les retraites ont également été augmentées. Celia Prado sort de l'université où elle donne des cours. Son pouvoir d'achat augmentera largement. Au lieu d'acheter 2 tomates, explique-t-elle, elle pourra en acheter 10, mais il n'y aura pas plus de tomates sur les étals des magasins selon Celia, qui craint une inflation.
Je m'inquiète surtout du secteur privé parce que le gouvernement n'a pas les moyens matériels de vérifier les prix. Je pense à la viande de porc, à l'igname, aux tomates et aux légumes qui sont vendus majoritairement dans le secteur privé et dont les prix seront très difficiles à contrôler.
Le gouvernement annonce également une substitution des importations et une relance de la production nationale. Dans ce contexte économique difficile, Rubén Albalán, de l'organe de presse officiel Granma, s'enthousiasme de ces réformes.
C'est extraordinaire à une période où tout le monde pensait que le pays entrait dans sa seconde période spéciale, due aux agressions des États-Unis. Cuba prend le risque d'engager ces mesures.
Outre la diversification et l'augmentation des exportations, le financement de ces mesures n'a pas été détaillé. Domitille Piron, La Havane, RFI.
Et tout de suite, le journal La Première Caraïbe, présenté par Tiziana Maron. Bonjour Tiziana.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une, c'est une première en Guadeloupe, l'arrivée d'un porte-conteneurs géant qui a accosté au port de Jarry en début de semaine.
Oui, le Skiathos 1 est un navire qui mesure 270 mètres de long et 43 de large. Il a une capacité de 6000 containers. C'est la première fois que Guadeloupe Port Caraïbe accueille ce bateau nouvelle génération. Le reportage de Steve Prudent de Guadeloupe La Première.
Le navire sous pavillon chypriote est beaucoup plus grand que les porte-conteneurs qui escalent d'habitude sur le terminal de Jarry. Sa capacité d'emport peut aller jusqu'à 6900 conteneurs équivalent 20 pieds, soit plus du double des navires habituels. Un événement programmé de longue date par les autorités portuaires. Le président du directoire de Guadeloupe Grand Port Caraïbes, Yves Salaoun.
Là, c'est le premier test en grandeur nature. C'est un porte-conteneur le plus grand que la Guadeloupe ait jamais accueilli jusqu'à présent. Et c'est la taille aujourd'hui de porte-conteneurs dans la Caraïbe. Donc il était important qu'on se mette à niveau pour pas rester en marge des grandes lignes de la Caraïbe.
Lors de cette première escale du Skiathos 1, près de 400 conteneurs ont été manutentionnés.
Et après la Guadeloupe, le Skiathos 1 a fait escale hier matin en Martinique où il a délivré plus de 400 conteneurs. En Guyane, un nouveau drame dans la lutte contre l'orpaillage illégal. Hier, trois militaires sont morts lors d'une intervention dans un puits dans la région de Maripasoula. Dans un communiqué publié ce matin, Florence Parly, la ministre des Armées, a salué la mémoire des trois soldats qui faisaient partie du 19e régiment du génie de Besançon. Ils avaient été déployés en mission de courte durée en Guyane. Le communiqué du ministère des Armées précise que les militaires s'apprêtaient à disposer des charges explosives pour détruire les installations souterraines des orpailleurs quand 8 d'entre eux ont été victimes d'émanations toxiques au fond d'une galerie. 3 décèdent, les 5 autres ont été évacués à l'hôpital de Cayenne, dont l'un d'entre eux dans un état grave. Une enquête est en cours, diligentée par la section de recherche de la gendarmerie de Cayenne. Retour en Guadeloupe, 30% des produits de la pêche côtière sont contaminé par le chlordécone dans le sud de Basse-Terre. Un nouveau programme de prévention de santé intitulé Titiri, un mot créole désignant l'alvan, a été mis en place. Piloté par l'IREPS, l'instance d'éducation et de promotion de la santé, Titiri répond dans un premier temps aux besoins d'information de la population. Guillaume Pompugnac, chef de projet à l'IREPS.
Il y a beaucoup de connaissances scientifiques qui existent, qui ne sont pas vulgarisées, qui ne sont pas mises à disposition de la population. Donc l'idée, c'est que vraiment le programme Titiri fasse le pont en fait, entre le savoir qui existe, ce qui est mis en œuvre par rapport à cette problématique et les besoins de la population.
Guillaume Pompugnac, chef de projet à l'IREPS, au micro de Sébastien Gilles de Guadeloupe La Première. Et c'est la fin de cette édition. Bonne journée.
Bonne journée également à vous, Tiziana Maron. Merci pour ce journal La Première Caraïbe.
RFI.
Et on termine en musique avec Nazamba et Africa.
Chad, Namibia, Mozambique, Ethiopia, Sudan, Azania, Zimbabwe, Ghana, Africa, Al-Kibolan, land of the burning face. Africa, Al-Kibolan, Shaka Zulu birthplace. Africa, something that Africa was all, animal and bush. Africa, when last you travel Africa, youth, when last you go there and take a look. Something that Africa will always be, this sad story. Oh, Mama Africa, always remain in your glory. Ha. Africa, Al-Kibolan, land of the burning face. Africa, Al-Kibolan.
C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Hélène Avril à la réalisation. Restez avec nous sur la Radio du Monde.
Lot of development. When I take a look across this vast...